peux peut-être faire une ponctuation comme ça, sur laquelle, peut-être qu'in fine, j'arriverai à une question, mais je suis pas sûr. En tout cas, alors c'est intéressant que justement Nathalie coupe au moment parce que c'est là-dessus précisément que portent mes questions, donc en gros. Alors que, plutôt c'est sur le début la première partie de vos propos et des pièces que vous avez présentées. Vous partez de l'entaille, comme ça, hein, de l'épouvantail et de l'entaille. Oui, de l'épouvantail, mais après c'est de l'entaille, puisque toutes les enveloppes que vous nous présentez, elles sont vides et elles sont comme ça, flasques, tombantes, etc. Avec cette question il va falloir que j'arrive à nouer les fils ensemble, je ne vais pas gagner. Hein. Avec cette question, vous avez dit de la lisière, hein, propos du mastic dans la fenêtre, vous interrogez la lisière, ce qui est déjà la question à la fois dans l'épouvantail, puisqu'on ne sait pas bien du quel côté c'est. C'est une fabrication faite par l'homme, ça a tous les signes et les traces du par-l'être, mais ça vient comme une espèce d'adresse au non-par-l'être, à un autre monde. Hein, donc tout ce qui se trouve à cette lisière-là, qui est la définition du littoral et de la lettre. Hein. Le littoral, c'est ce qui est absolument précisément en permanence défini, repérable, puisqu'on sait où il est, et en permanence mouvant. Et alors, pourquoi je dis tout ça? Je vais y arriver. Voilà. Parce que justement, vous vous appuyez et il me semblait que c'était le propos un peu de Montebello sur cette manière de changement de paradigme, de révolution, de changement total de paradigme. Vous ne vous appuyez que sur des formes qui sont, je vais dire, de la géométrie euclidienne, c'est-à-dire pour lesquelles il y a un dedans et un dehors. Et que l'entaille, la lisière, elle va marquer la frontière entre le dedans et le dehors. Est-ce qu'il n'y aurait pas, puisque c'est votre propos là, hein, donc ça va être très scientifique, une manière d'envisager les choses avec des formes qui ne relèvent pas de la géométrie euclidienne, c'est-à-dire la bande de Möbius, la bouteille de Klein, toutes ces figures qui sont à la limite de ce que l'on peut imaginer, donc qui arrivent à la limite de notre perception, de nos représentations, et pour lesquelles il n'y a pas de dedans, il n'y a pas de dehors, et que le dedans-dehors est en continuité. Je ne sais pas si c'est une question, mais en tout cas, c'est une manière de répondre aussi de continuer ce que vous avez dit, vous, sur un autre champ qui est celui plutôt des mathématiques. Mais comment est-ce qu'on fait si on n'est plus dans un combat de l'un et de l'autre? Et que si on veut interroger la lisière, on l'interroge du côté de ce qu'elle vaut, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de dedans et de dehors.
Mmh. Voilà. C'est peut-être ce que je tente de faire à travers ces peaux ou à travers ces suspensions qui ne sont pas directement des rubans de Möbius ou d'autres formes dont tu parles, mais pas loin. En fait, elles sont à moitié retournées sur elles-mêmes.
Pas loin, sauf qu'il faut franchir un bord pour passer d'un côté à un autre.
Oui, mais la
bande de Möbius, elle n'a qu'un bord. C'est ça sa définition.
Oui, ouais. Mais j'éviterais à tout prix que, en même temps, ce type de pièce-là montre ou démontre quoi que ce soit. C'est pour ça que je souhaiterais qu'elle ne soit pas dans une forme figée ou dans une forme fixe en tant que ruban de Möbius ou en tant que non-ruban de Möbius. Donc je préfère travailler sur une sorte de flottement de ces formes-là.
C'est aussi pas ça, je sais pas, on peut entendre, alors pour le coup, Pascal, tu vas peut-être plonger, mais sur la question du rituel, je pense que moi j'entends ça aussi.
Tout à fait, ouais.
Donc là, on est au-delà du fait de la forme et de sa représentation et du fait de la géométrie euclidienne ou à venir et avancer. On est aussi dans ce qui nous renvoie à un processus de transformation, d'évolution, de rituel potentiel, c'est le passage. Alors ces notions...
Sans parler de rituel, moi je sens bien les réponses à ce que tu viens de dire. Notamment quand tu parles d'énergétique ou d'énergie. Là, la démonstration vient d'être faite avec... Bon, on n'a peut-être pas senti l'odeur, mais la propolis. La propolis, c'est pas rien la propolis, n'est-ce pas? Et j'imagine que quand tu utilises la propolis, ça parle pas justement de ça, c'est-à-dire de trouver d'autres formes. Tu parles de non-euclidien, mais là effectivement, de faire jouer les sens, de les réentraîner et de les faire passer ailleurs. La mythologie de l'abeille, je pense que tu l'as. tu la convoques ici directement. Elle est directement liée à ça, et c'est pas qu'une mythologie a priori.
Non, c'est toute une, enfin, c'est toute une existence et une mythologie aussi, puisqu'on a fait suffisamment de romans au sujet de la nature, mais en fait, elle est convoquée là, mais à nouveau, elle est à travers des plans ou des surfaces ou des aplats ou des pommades ou des cataplasmes, enfin, toutes ces sortes de choses qui viennent ponctuer ou pas certaines formes de sculpture et qui viennent un peu comme, je ne vais pas dire des pansements, parce qu'il ne s'agit pas de soigner la sculpture, mais de des sortes de formes de. Oui, de, non, on ne dit pas cauter, non. Si on dit cauter des choses un peu de cet ordre-là, en fait. Mais le passage, ou le passage à travers, qu'il soit à travers ces formes onoukiliennes, ou enfin je ne sais pas, mais à travers ces clôtures, pour moi c'est vraiment un passage qui est aussi, qui se passe dans la pièce elle-même. Quoi. Enfin, la pièce elle-même, je souhaiterais qu'elle soit traversée de quelque chose, qu'elle soit. Moi la question de la forme, en fin de compte, enfin, ça va sembler un peu péremptoire, mais en fait elle ne m'intéresse pas beaucoup la question de la forme. Ça ne m'a jamais vraiment motivé, et c'est quand je fais face à des objets que je récupère et que j'essaye de ramener presque à un état antérieur ou un état qui serait en deçà de leur état dans lequel je les trouve, c'est presque les ramener au bord d'eux-mêmes, presque les ramener avant qu'ils ne deviennent la définition d'eux-mêmes, par exemple un silo à grains ou un de défaire, de soustraire à la forme des choses qui les maintiennent dans une sorte de seuil de la sculpture, quoi. Enfin, pas une sculpture divine. Comme cette pièce-ci au sol qui est un kayak à nouveau évidé, qui est donc impraticable. Et c'est justement le fait que cette forme-là soit à un moment donné impraticable qu'elle vient m'intéresser, puisqu'elle agit en tant que signe, presque. Mais j'aurais aimé très brièvement poursuivre et finir. Si, vous n'avez pas. J'en viens, juste, c'est ceci qui clôt, en fait, et si je puis dire des choses, mais pas les discussions. Un peu à la manière de cette sorte de lettre, enfin, que je considère comme une lettre que j'aurais excavée comme ça du sable. Il y a ce bidon, en fait, il y a ce flotteur à un moment donné qui ne sert plus et que je retrouve à nouveau comme quelque chose qui vient sur les rives comme ça et que je tente d'ouvrir et de percevoir peut-être au-delà de la fixité des choses, de cette matière qui est donc du polyuréthane, quelque chose comme un mouvement interne à la forme, quelque chose comme une sorte de frémissement à nouveau de l'intérieur de la sculpture. Ceci parce que, bon, depuis un certain temps, il y a ce matériau qui m'intéresse et qui me fascine à certains égards, qui est le thorium. Le thorium, qu'est-ce que c'est ? C'est un matériau absolument accidentel, c'est un matériau involontaire, c'est cette coulée de lave, d'amas en fait, de lave qui se produit quand lors d'un accident nucléaire, et c'est cette chose qui vient s'épancher au-delà de la machine comme une sorte de chose indigeste, enfin non digérée, d'amas de structures, et qui forme une forme qui me touche particulièrement parce qu'elle est de l'ordre de l'informe, justement. Donc assez loin de la géométrie euclidienne. Cette chose, elle me fascine à ce sens-là parce qu'elle est. Elle n'est pas volontaire dans le sens, elle n'a pas été créée par l'homme. Elle est une succession d'accidents et d'événements non maîtrisés. Elle est hors de contrôle puisque c'est quelque chose qui a une telle densité en termes de poids qu'elle s'enfonce progressivement dans la terre, en fait. Et c'est pour ça qu'on cherche absolument aujourd'hui à prévoir un moyen ou un autre de contrôler, en fait, cet épanchement, puisque c'est quelque chose qui vient brûler et faire fondre l'acier, le béton, tout un ensemble de matériaux qui sont résistants. Donc cette sorte de matière absolument mortelle, puisqu'en plus c'est un amas de plutonium, et de plein d'autres choses. Elle, voilà, elle m'évoque, enfin, cette image m'évoque à nouveau le titre que j'ai voulu donner aussi à cette intervention, qui venait des haïkus comme ça de Ryoshi Wago. Ryoshi Wago, c'est un poète japonais qui a écrit pendant Fukushima, en fait, et pour décrire justement ce raz de marée, en fait, il parle de voilà, des milliards de chevaux en pleurs passent sous la terre au galop. Et je trouvais que ces milliards de chevaux en pleurs passant sous la terre au galop étaient peut-être une façon de s'adresser à ce matériau-là, justement. De reconnaître presque son activité et sa vie.
Donc, en fait, d'ailleurs, plus que de forme, et en dehors de la notion de flux, et je retiendrai le terme de matière, ce qui peut très clairement, comment nous, on peut, le nous, moi je me sens pas artiste, pour le coup, je me trouve à l'intersection de ces différents langages, et comment à un moment, cette notion de matière va nous permettre aussi d'œuvrer ensemble, parce que. Le postulat initial du laboratoire espace-cerveau, au moment où le point de départ était d'explorer les mécanismes de la perception au plus loin possible à travers l'œuvre emblématique en premier lieu et puis bien d'autres depuis d'Anne Véronica Janssen et Brouillard coloré, c'était un moment de dire au-delà des mots, au-delà des yeux. Donc, en principe, les mots, là, ne sont qu'un vecteur possible. Et donc, dans ce tressage, ou ce tissage, ou ce tricotage, ce mot qu'on essaye d'établir aujourd'hui, ce mot matière va nous permettre de rebondir sur sa proposition, en fait. Alors, bon, là, tu as déjà dit, est-ce que toi, tu as, Alexandre, une question?
Non, je crois que tu as répondu à celle que je voulais poser sur la forme et aussi je voulais savoir, enfin c'est une question que je voulais vous poser à tous les deux, comment ce que chacun a dit fait écho chez l'autre dans sa pratique? Comment est-ce que tu fais ton miel de ce que nous raconte notre invité et comment est-ce que toi tu penses que l'artiste peut retirer quelque chose de ce que tu as proposé? Voilà. Si c'est faisable,
je n'ai aucune, certainement pas la prétention de dire que l'artiste va retirer quelque chose de ce que moi je dis. Par contre, moi je peux.
Qu'est-ce que
tu imagines que.
Non, mais moi, ce qui, moi je suis très intéressé par ce que j'ai vu, parce que j'y vois, de la manière que je traque un peu la question des limites dans mon travail. C'est-à-dire, travailler sur la notion de limite après Kant, et de la même manière je vois un gros travail sur les limites c'est-à-dire sur la manière dont on désédimente les significations des objets, ou même les formes des objets, pour arriver à une sorte de spectre, des purs, de par exemple le canoë, la vide, ça ressemble à un coquillage, on ne sait pas ce que c'est, est-ce que c'est un vaste coquillage, est-ce que c'est un canoë, les habits suspendus et ils ont presque des apparitions de moments d'hypnose au 19e siècle, hein, ces formes flottantes.
Les ectoplasmes,
etc. Ce passage, il y a tout un passage de la matière dans des états qui ne sont plus des états solides ou des états où les objets sont reconnus en eux-mêmes, qu'ils vont passer autre part. Oui, moi je me reconnais assez bien je trouve que ce travail me parle, en tout cas, pour cette manière de détourner l'objectivité des objets vers d'autres cet aspect spectral des objets là même, bon, la matière est très lourde, mais dans l'image que je vois là,
absolument, ouais. Mais moi très sincèrement je me retrouve aussi dans ce que tu disais au départ par rapport à ces questions de. Alors forcément, ces questions d'humain et non-humain, je pense qu'en fait, personnellement, je n'avais pas, ou peut-être je n'étais pas du tout touché par ces questions-là lorsque j'habitais en ville, en fait. Et j'ai l'impression que le fait d'être au contact de différents types d'activités qui sont, pour la plupart des activités, au contact du non-humain, agriculture, élevage, chasse, etc., c'est quelque chose qui est très prégnant en fin de compte, enfin, qui saute aux yeux presque en fait, j'ai l'impression. C'est quand on vit sur place, en fait, quand on vit, enfin, moi, quand on vit et travaille, enfin, mon atelier est sur place aussi. Donc voilà, néanmoins, à nouveau, cette terminologie de non-humain est néanmoins aussi problématique, puisque c'est comme parler de nature, on est toujours là à mettre, enfin, je suis toujours là à mettre des guillemets, c'est pour ça que je préférais parler de dehors, c'est-à-dire de dehors, enfin, le dehors, littéralement, le dehors là, enfin, le dehors de soi. Et je pense que de toute façon persiste ce dehors. Et que l'idée qui serait de se dire, bon, la nature, de toute façon, la nature n'existe pas, ça n'est qu'une construction, et tout ça, certes, néanmoins, il persiste ce dehors qu'on pourrait approcher de la nature.
Je ne sais pas, dehors-dedans, on avait tendance plutôt ces dernières années à, Jean-Luc Poitevin, à considérer que c'était plus une dialectique à l'œuvre, quoi. Mmh. De quel dehors parlerait-on ?
Ben, dehors. D'abord, je reprends ce que tu dis, parce que l'idée que la nature n'existe pas, c'est une thèse de la Tourienne. Oui. Ou plutôt, qu'il faut se passer du concept de nature. Oui. C'est pas unanimement. C'est l'idée que la nature nous empêche justement de. C'est par la référence permanente à la nature qu'on empêche la politique de se faire. Oui. C'est une thèse qui se défend. Moi, je ne suis pas du tout dans cette notion-là. Je pense que la notion de nature est quand même une notion très opératoire pour nous, qui continue d'être opératoire, pour nous, fondamentalement opératoire. Donc, je ne tiens pas du tout à me passer de la notion de nature. Il faut simplement savoir ce qu'on met sous le mot nature. Si la nature, c'est le plan universel de matière que Descartes décrit dans les principes, si c'est la nature réduite à un plan subatomique, si la nature a des dimensions ou pas, quelles sont ces dimensions. Donc il faut savoir ce qu'on met sous le concept de nature. Mais par contre, je suis assez sensible aussi au concept de dehors. Je suis assez sensible à l'idée que précisément le concept de dehors a été trop souvent utilisé aussi par Deleuze, par exemple, hein, qui conservait la notion de dehors simplement pour en finir avec cette certaine forme de clôture aussi, d'intériorité, d'intériorisation, etc. Donc il y avait toujours cette idée qu'il y avait que toute intériorité était déjà en prise avec des forces du dehors. Même l'intériorité des objets. Oui. Voilà. Même l'intériorité des objets déjà en prise avec des forces du dehors, ce qu'on voit très bien.
Mais en prolongation et en extension. En prolongation et en extension, pas en opposition.
Oui, pas en opposition.
C'est ça. C'était juste à rappeler.
Alors, si vous pouvez. Si vous avez un point commun d'ailleurs, tous les deux. Mmh. Intéressant. C'est le spectre.
Ouais,
n'est-ce pas,
ouais, hein,
le spectre, l'ectoplasme, vous ne pourriez pas jouer avec vos spectres. Je veux dire par là
maintenant tout de suite.
Plus sérieusement, vous pourriez nous dire un peu plus précisément c'est quoi le spectre, ou c'est qui, ou...
C'est le musée de l'invisible est initié par Pascal Pic.
Tiens. Moi, le spectre, c'est l'ancrage. Je crois que c'est de manière située. C'est à l'intérieur d'une pratique, philosophique, que la notion de spectre m'a intéressé avant qu'elle m'intéresse au niveau, par exemple, artistique, avec toutes les questions du rapport du cinéma à l'hypnose, du rapport du cinéma. Il y a tout un regain du modèle du cinéma comme hypnose. C'est tout un regard de la nature spectrale des images. Qu'on voit aujourd'hui, il y avait un modèle du cinéma qui était le rêve, qui était l'onirisme, etc. Puis il y a un modèle du cinéma aujourd'hui qui est l'hypnose. C'est-à-dire, on va passer de parler de conscience modifiée, ben précisément, le spectateur est dans un état de conscience modifiée qui fait que l'enchaînement des images provoque en lui, précisément, un circuit de conscience beaucoup plus large, onirique, rêve, suggestion, etc. Bon, mais c'est pas ça. Moi, dans ma pratique de philo, j'ai rencontré la notion de spectre, encore une fois, à travers Derrida, j'ai été assez convaincu de ce qu'il disait. C'est-à-dire, à savoir que la parole philosophique ou le récit philosophique, il a à voir avec des spectres qui hantent cette parole. et qui sont des grands récits qui hantent cette parole, et qui, donc cette dimension spectrale du discours philosophique, c'est la manière dont, depuis l'origine, quelque chose parle et continue de parler dans le discours, et d'intervenir malgré nous dans ce que nous disons. Et c'est cette dimension spectrale du discours qui m'a intéressé dans la philosophie. Encore une fois, l'exemple c'est l'animalité, un récit sur l'animal que donc je suis, c'est-à-dire quand on croit parler de l'animal, c'est des récits en nous qui parlent de l'animal, qui sont constitués de très longues dates et qui ont cette dimension de présence non visible, hein, qui continue d'agir en nous et de proposer en nous quelque chose sans que précisément nous puissions distinguer ce qui vient de nous, ce qui vient de ces spectres. Tout le discours sur l'animal en philosophie est un discours spectral qui vient de grands récits que la philosophie n'a pas constitué. C'est ça qui est assez étonnant dans le livre de Derrida. C'est de décrypter, c'est de dire, mais finalement, le spectre, on voit bien, c'est la distension entre l'origine et puis la répétition de l'origine jusqu'à nous. Voilà, c'est ça, la dimension spectrale du discours. Mais ça, c'est dans le discours philosophique. Maintenant, je suis très attentif à d'autres formes de spectralité dans l'image, dans la piscine, dans l'art, etc.
Le spectre. Reste question, mais c'est vrai que j'aurais tendance à le rapprocher d'une forme de silence. Enfin, je pense à cette phrase de Richard Nonas, en fait, cet artiste américain qui parle du rêve futile d'un silence humain. Et le rêve, ça veut dire le rêve futile d'un silence humain, ça serait qu'en fin de compte, on arrive enfin à accepter que ce silence, donc par silence, il indique, enfin, il pointe la nature. Que ce silence nous parle enfin, que ce silence ait enfin un sens et qu'on puisse accepter le fait que ce silence soit à nous adressé, alors que bien entendu il n'est pas à nous adressé puisque la nature est là sans nous et elle n'est pas tournée vers nous. Donc et il y a ce très bel ouvrage d'André Bouchet sur justement avec ce titre, qui n'est pas tourné vers nous. Et c'est quelque chose pour moi qui est très saisissant quand on comprend et qu'on finit par accepter que tout ceci ne nous regarde, bien sûr, mais tout ceci n'est pas là pour nous en tant que tel. Enfin,
c'est pas destiné.
Je voudrais connaître la nature de ces deux images que je ne connaissais pas et qui me fascine un peu.
Celle-ci
et celle d'avant. Celle d'avant, c'est un peu la même chose refroidie, parce que...
Celle-ci, non ?
Oui.
Ça, c'est le... En fait, c'est ce qui s'appelle Elephant Foot. Enfin, c'est le pied d'éléphant qui est la première coulée de corium répertoriée de Tchernobyl.
D'accord.
En fait. Ah, non, et c'est Tchernobyl aussi.
Et celle-ci...
Et ça, c'est TEPCO. Enfin, c'est Fukushima.
Ok.
Enfin, c'est les vues.
Non, parce que là, il y a quand même quelque chose de fascinant dans la façon dont tu l'abordes. Et c'est pour ça que je notais aussi là quelque chose. Tu parles de sculpture, et là, on est quand même face à la perte du socle. Mais vraiment, là, c'est facile. C'est-à-dire, je repensais, je me faisais le chaînon manquant. Là, il y a Brancusi, Serra, Carl-André, et puis... Là, il n'y a plus de socle.
Si, si, non, il y a Walter des Mariades, mis à l'entrée aussi, de...
Voilà, oui, non, mais il y a puis Robert Morin, mais bien sûr. Mais là, oui, non, c'est vrai, tu as raison, mais c'est quand même là, dans ce champ-là, dans ce qui nous importe, ça devient quelque chose.
Alors Didier, là voilà, ça vient vers toi là maintenant.
Pour l'absence de socle.
Le socle, on va le laisser en réserve dans l'idée ou dans la non-idée. Dans la démarche qui est la tienne de manière générale et dans la relation à ce qui s'est dit en particulier.
Alors, c'est un peu difficile de lui demander, en tout cas, puisqu'il ne sait pas encore de quoi quel est mon travail, évidemment, donc je peux voir un petit peu sur ce que lui travaille. Moi, j'étais très... Alors, il y a des questions qui posent... Alors, je m'excuse, moi, effectivement, ma pratique, c'est le langage, donc aussi la manière dont on nomme et dont on dit les choses. Il y a des moments où, moi, ce qui me touche, c'est les questions pragmatiques. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on pose cette question au moment où on la pose ? Il y a une phrase de Leibniz, qui pour moi est un leitmotiv permanent. « Dis pourquoi ici ? Pourquoi tu dis ça ici ?» Et la question de savoir si la nature nous regarde ou ne nous regarde pas, en quoi elle nous importe ? En quoi elle importe là ? Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, hein. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps des questions qu'on se pose et qui sont des questions très générales, en survol, et effectivement elles nous paraissent intéressantes comme ça, mais est-ce que pragmatiquement elles changent quelque chose ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une belle phrase de Whitehead, un grand philosophe sur lequel moi j'ai travaillé, finit Procès et réalité, un grand traité de cosmologie, et il dit... Il finit par une phrase très énigmatique. Il dit « Le loup a mangé l'agneau. L'agneau l'a su, le loup l'a su, et les vautours l'ont su. Tout le monde l'a su. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une phrase énigmatique qui veut dire « Est-ce que ça nous intéresse vraiment ? » C'est-à-dire, il y a attestation du fait que c'est pris en compte. L'épouvantail, il est pris en compte. Il est pris en compte par les oiseaux qui l'évitent. La nature, c'est, vous voyez, c'est plus les acteurs non humains. Est-ce que c'est nous qui les faisons parler ? Est-ce qu'ils parlent ? C'est des questions qu'on pose sur un niveau, à mon avis, parfois, et c'est triste qu'un philosophe le dise, hein, parce qu'on nous taxe souvent de généralité, mais moi je me méfie du niveau de généralité dans lequel elles sont posées. Et je me dis, et je trouve que votre travail ne va pas dans ce sens-là, mais c'est dans la manière dont, à certains moments, vous avez posé des questions, où je me dis... Est-ce que vous y gagnez quelque chose à poser ces questions-là, là où votre travail, c'est, enfin en tout cas, j'étais intéressé par l'épouvantail, parce que moi j'appelle ça des sujets, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est déjà des interactions. Et c'est des interactions, si vous ne les voyez pas, c'est pas un problème. Et si vous les voyez, posez la question là où vous les voyez, c'est-à-dire là où ça pose problème pour vous. Pourquoi voulez-vous les poser ? Indépendamment du fait que vous seriez ou pas là. Vous voyez ce que je veux dire ?
Enfin, déjà, je souhaiterais que les sculptures ne posent en tant que telles pas de questions, enfin, qu'elles ne soient pas le support de questions ou de démonstrations voire même de sens. Mais en même temps, enfin, le fait de citer cet ouvrage de Dubuchet, enfin, qui n'est pas tourné vers nous, c'est quelque chose, à mon sens, qui est crucial, qui est tout sauf une généralité, dans le sens où, enfin, très simplement, dans le sens où, par exemple, dans un contexte urbain, tout est tourné vers nous. Enfin, tout est fait pour nous, tout est conçu, tout est façonné et pensé pour nous. Et dès qu'on va mettre un pied... Et c'est ça c'est ce qui gratte, et c'est ce qui gêne, et c'est ce qui fait qu'on se sent parfois particulièrement perdu. C'est que dès qu'on va mettre un pied hors de l'urbain et dans le paysage, à un moment donné, et je ne parle pas du paysage cultivé ou de la forêt plantée ou tout ça, mais à un moment donné, effectivement, très directement, ceci n'est pas là pour nous. Il y a un tel fossé entre les deux sphères que je ne perçois pas nécessairement la portée générale de cette...
C'est juste l'effet de risque de généralisation, d'exagération.
Oui.
Aujourd'hui, j'élargis un petit peu le débat aussi pour que vous voyez un petit peu pourquoi je fais cette remarque. Aujourd'hui, on a des philosophes qui... Et c'est devenu très à la mode, hein, le réalisme spéculatif. Et vous avez des philosophes qui posent des questions du type « Comment est-ce qu'on peut connaître le monde d'avant l'homme ? Et comment est-ce qu'on pourrait le connaître après l'homme ?» C'est des questions ridicules. C'est totalement absurde. Mais aujourd'hui, on a retrouvé le sens, je ne dis pas ça du tout pour vous, hein, je dis juste sur ces questions qui deviennent une exagération. Personne n'a jamais posé la question du monde avant l'homme. Même les scientifiques, et quand les réalistes spéculatifs le disent, ils disent, voilà, imaginons un géologue qui parle des états de la Terre d'avant même que l'homme n'y soit. Ben, il n'a aucune connaissance des sciences. Jamais un géologue n'a fait un saut 2000 ans en arrière. Il prend des signes actuels, des fossiles, il travaille sur ces fossiles, il les corrèle à d'autres traces, mais c'est très situé, c'est-à-dire il l'interroge à ce moment-là. Donc je comprends très bien ce que vous dites, et je suis en total accord, hein, sur le fait que les choses ne sont pas là pour nous, mais n'en déduisons pas non plus qu'elles sont silencieuses, qu'il faudrait leur garder un caractère presque silencieux au-delà de nous-mêmes. Il faut garder le côté très attaché de là où nous sommes. Moi, je travaille sur les non-humains, mais ce n'est pas pour autant que je pose la question de l'absence de l'homme dans les interactions. Parce qu'autrement, je pense qu'on a une montée en exagération et en généralité qui peut devenir... et qui va, à mon avis, à l'encontre de ce que vous nous avez montré, c'est-à-dire des interactions fortes, potentielles, d'agents qui sont reliés les uns aux autres, et ça ne cesse de se parler, de faire signe les uns avec les autres. Mais on voudrait... Pour ne pas tomber dans l'anthropomorphisme, dans l'anthropocentrisme, on voudrait poser des questions très générales. Ce serait quoi le monde hors de l'homme? Ce serait quoi le monde d'avant l'existence humaine? Mais je ne vais même pas dire que qu'on n'a pas de réponse. Je dirais que ce sont des questions absolument grotesques. Donc si je devais faire une critique à ces approches du réalisme spéculatif et de gens comme Ray Brassier qui posent la question de... Comment vivrons-nous après la catastrophe et la disparition de l'homme? Je dirais que ce sont des questions absolument grotesques et qui ne les intéressent absolument pas. Parce que si on est intéressé, on n'est pas intéressé par l'après-nous. On est intéressé sur comment nous allons vivre. Et là, c'est une très belle question que posait Anat Singh, auquel Pierre se référait. Comment allons-nous vivre dans les ruines du capitalisme? Mais ça ne veut pas dire comment allons-nous vivre dans le vide laissé de l'après. Vous voyez? Et donc, c'est juste... le risque de l'exagération sur ces questions-là, où je trouve que ce que vous dites, ce que vous montrez m'a beaucoup intéressé, parce que pour moi c'est absolument chargé d'interactions, au moins potentielles, à tous les niveaux. Et vous avez montré de la substance de Tchernobyl, c'est-à-dire des objets avec des histoires, avec énormément de peuples à l'intérieur. Et donc c'est bruyant comme histoire, c'est pas du tout... voyez ce que je veux dire.
Oui, maintenant je me permets, en tant que curateur, comme on dit, de se faire vivre des artistes, ou enfin plus ou moins, en tous les cas, de fait, l'idée que l'œuvre puisse se suffire à... Enfin, qu'elle ne soit pas démonstrative, je pense que c'est aussi cette notion-là que tu voulais un petit peu évoquer, c'est-à-dire qu'on va à un moment... Déjà, c'est très très courageux que Guggen se lance avec des mots, parce que la plupart des artistes n'y vont pas. Et qu'après, en gros, je peux comprendre que voilà, mon travail est là, les pièces sont là, et elles ne sont pas dans le mutisme, mais elles sont là. Et du coup, les mots n'iront pas au-delà, n'apporteront rien de plus. C'est un peu ça qui se dit là, mais c'est autre chose.
Tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce que son travail. Si tu es chez moi, et je te dis, il me met face à la question que je me poserai dans mon travail tout le temps. C'est-à-dire, attention à l'exagération. À l'exagération dans laquelle je lui parle dans la mesure où j'en suis la première victime.
Toi-même, tu considères, oui, qu'à un moment.
Que c'est ça contre quoi je dois. Il faut tout le temps résister.
Et donc, la belle était toi.
C'est-à-dire.
Non, par rapport à l'artiste.
Ah non.
Ah non, non, non.
Non, vous n'avez pas du tout compris ce que je disais là. J'ai pas du tout dit ça.
Non, par rapport à l'œuvre.
Non, mais on est au-delà de l'art là. On est dans le champ philosophique de savoir comment opérer.
Ouais, juste, voilà, que ce qu'il est, les matériaux avec lesquels il est en prise et la question et les obsessions qui l'animent me paraissent très proches, effectivement, de celles que nous avons, Pierre et moi, et dès lors, nous rendent sensibles aussi aux dangers qui sont immanents à nos gestes, puisque ce sont des gestes aussi de déconstruction, et donc qui s'opposent à une certaine tradition, et donc on s'oppose à une certaine tradition, pour faire rendre palpable et pertinent un certain type de discours, on peut l'exagérer. Et donc, je marque tout le sens du danger qu'il met et qui fait qu'il faut être très prudent avec les questions qu'il pose et que ce sont des questions auxquelles il...
Mais alors, t'es moins guerrier que Pierre, du coup.
Bon, allez, tu
te constates,
c'est ça. Alexandre va faire poser une question du milieu.
Oui, une question du milieu. De l'intérieur et de l'extérieur. Là, tu viens de réagir, évidemment, de nous donner ce que provoque chez toi la vision de ces œuvres et ce qu'il en a dit. Moi, je serais intéressé que tu nous dises, à partir de ta recherche propre, philosophique, ce qui pourrait apporter de l'eau à notre moulin. Le moulin étant ce que nous avons dit et ce que tu as reçu. Qu'est-ce qui, dans tes recherches philosophiques, donc je pense justement à la matière de ton dernier livre et à plutôt une présentation plus générale de tes recherches en philosophie spéculative et les futurs qui auraient pu advenir, qui ne sont pas devenus, par exemple. C'est juste c'est ce que moi je pense en premier, mais tu sais mieux que moi ce que tu peux nous dire. Est-ce que ma question est claire?
Elle est relativement claire, mais elle pose un... Je ne sais pas si j'étais censé parler ou pas un moment, parce que
si,
comment...
C'est ton moment.
J'avais pas compris que c'était une...
C'est ton moment, mais je n'ai pas dit que...
Je ne savais pas que j'allais faire un si grand professionnel des événements qui faisait les transitions si joliment. Bon, alors, je ne sais pas, on reprend la discussion après.
Un petit mot juste par rapport à ce que tu disais, c'est qu'en fait, ce que je raconte... Enfin, si je puis dire, ce que je raconte, c'est pas le travail. Le travail, c'est ce qu'on voit. Mm-hmm. Ce que je raconte, c'est pas mon travail, quelque part. Mm-hmm. Donc, c'est une manière de me dédouaner, mais en même temps, je dis que enfin, le gros de mon travail, c'est ce que je présente, c'est pas la façon dont j'en parle.
Mm-hmm. Bien sûr.
Voilà.